Chapitre 2. Yumiko Yoshitsune en avait le pressentiment. Cette nuit, elle devrait s'attendre à mourir trois fois. Elle ne s'en effrayait pas outre mesure, elle avait l'habitude. D'une taille anormalement haute pour une japonaise, elle était belle, avec dans les gestes et la démarche cette fluidité qui est d'ordinaire l'apanage des danseuses. Les hommes qui la croyaient alanguie, rêveuse, distraite, était régulièrement ébahi par la rapidité de ses réflexes. Il lui arrivait de saisir au vol un objet dont personne n'avait encore remarqué la chute, ou d'éviter une collision in extremis d'une incroyable torsion du buste, comme si sa colonne vertébrale était montée sur disques caoutchoutés. Dès son enfance, les surveillantes de l'orphelinat avaient abrégé son prénom en Miko, qui en langue nippone signifie « sorcière, jeteuse de sorts » et prêtresse consacrée au culte d'une divinité Shinto. Elles avaient vu juste. Sans doute était-elle tout cela à la fois. Yumiko venait de fêter son 35e anniversaire. Cependant, comme il en va souvent avec les Asiatiques, elle paraissait 10 ans plus jeune. Cela s'avérait fort utile dans sa profession. Yumiko Yoshitsune était un agent hit and run, frappé et disparaissait, du Destroy. Département d'études de surveillance tactique et de recherche opérationnelle Y. Autrement dit, une tueuse opérant dans des conditions extrêmes. Elle avait éprouvé pour la première fois l'envie de tuer 12 ans plus tôt, alors qu'elle était hôtesse de l'air sur la rotation Tokyo-Honolulu de la compagnie Ogakai. Durant tout le voyage, l'un des passagers, un quinquagénaire japonais imbu de sa personne, n'avait cessé de l'humilier en lui reprochant son incompétence en termes grossiers. Comme c'était le chef de département d'un important trust industriel, il ne s'était trouvé aucun passager pour oser prendre la défense de la pauvre hôtesse. Et Yumiko en avait été réduite à multiplier les courbettes d'excuses, les larmes aux yeux. C'est en réchauffant, pour la 6e fois consécutive, le saké de l'odieux personnage, qu'elle avait décidé de l'assassiner à la prochaine escale. Cela s'était imposé à son esprit avec la puissance d'une révélation mystique, tel l'un de ces coups de foudre spirituels qui vous expédie droit au monastère pour le restant de votre vie. Brusquement, alors qu'elle n'y avait jamais réfléchi auparavant, Yumiko sut qu'elle consacrerait son existence au crime. Lorsque l'appareil se posa à Honolulu, elle se rendit à l'hôtel en compagnie du personnel navigant, comme si de rien n'était. Là, elle s'habilla en civil, changea de coiffure, accentua son maquillage et ressortit à l'insu de ses collègues. Ayant surpris au cours du vol les conversations téléphoniques du mufle, elle connaissait le nom de son hôtel. Elle s'y rendit, s'installa dans un coin sombre du bar et attendit que sa future victime vienne s'y désaltérer. Elle n'eut guère le temps de s'impatienter. Comme elle l'avait prévu, le butor vint s'accouder au zinc pour s'abreuver de pur malt. Lorsqu'il se leva titubant dans l'intention de gagner les toilettes, Yumiko lui emboîta le pas. Elle le toua pendant qu'il urinait, en lui enfonçant une longue épingle dans la nuque. Une de ces épingles que les geishas utilisent pour tenir leurs chignons. L'homme s'effondra, foudroyé, le nez dans sa pisse. Yumiko estima que c'était exactement la mort qui lui convenait. Elle prit plaisir à contempler ses courtes jambes qu'agitaient les spasmes de l'agonie et son ridicule petit sexe coincé dans l'entrebâillement de la braguette, telle la queue fripe d'un chiot. Alors qu'elle allait quitter l'hôtel d'un pas nonchalant, elle fut abordée par un vieil étranger s'exprimant en japonais avec un horrible accent russe. Elle reconnut en lui l'un des passagers dont elle s'était occupée au cours du vol. « Je savais que vous alliez le tuer », déclara l'inconnu en allumant une cigarette à bout cartonné. « Je l'ai su à votre regard, quand il vous a rabroué pour la 3e fois, sous prétexte que son saké n'était pas assez chaud. Je sais reconnaître ces choses, mais permettez-moi de me présenter. » Evgeny Vassiliev Goncharov, colonel du KGB, aujourd'hui à la retraite. Il était vieux, mais encore beau. Grand et droit, avec cette raideur des gens qui ont longtemps porté l'uniforme. Ses yeux d'un bleu très clair évoquaient ceux des chiens de traîneau. Ses cheveux blancs étaient coupés en brosse courte à la mode militaire. Il se dégageait de lui une séduction étrange, impérieuse, à laquelle Yumiko fut sensible. D'ordinaire, elle n'aimait pas les Blancs. En fait, pour être tout à fait honnête, elle n'aimait pas davantage les Asiatiques. Les hommes lui avaient toujours déplu, quelle que soit leur couleur.
« Vous avez le don, ma chère enfant, » ajouta le vieillard. « Si cela vous intéresse, je pourrais peut-être vous proposer quelque chose. » Voilà, c'est ainsi que la mécanique s'était enclenchée. Evgeny Vassiliev Gontcharov avait été, au temps de sa splendeur, affecté au recrutement et à la formation des hirondelles, ces espionnes spécialisées dans la séduction et le retournement des cochons de sybarite capitalistes. Il avait, durant 15 ans, dirigé d'une main de fer l'école où l'on enseignait à de très jeunes femmes les techniques les plus savantes de la manipulation psychologique et de la prostitution. Ses élèves s'étaient illustrés dans des missions difficiles et nombre d'entre elles étaient parvenues à convaincre de hauts fonctionnaires de l'Ouest qu'il serait plus heureux à Moscou qu'à Los Angeles, Londres ou New York, ce qui n'était pas à la portée de la première venue, il faut bien l'avouer. « Je ne travaille plus pour les services de renseignement russes », expliqua-t-il à Yumiko en allumant une nouvelle cigarette à filtre cartonné. « On m'a confié le recrutement d'une unité très spéciale où vous pourriez avoir votre place, le département Y. Cela vous intéresse-t-il ? Ou bien préférez-vous continuer à assassiner à chaque nouvelle escale les passagers qui vous auront humilié ? Vous finirez par vous faire prendre, c'est inévitable. Je vous ai observé pendant que vous liquidiez ce port. Vous êtes restée parfaitement maîtresse de vos nerfs. C'est rare chez une femme. » Au premier abord, Yumiko le prit pour un fou, mais elle eut bientôt la certitude qu'il disait la vérité. Elle estima qu'elle tenait peut-être là l'occasion de tourner le dos à son existence de petite hôtesse, exploitée par un employeur qui s'empresserait de la congédier dès qu'elle ne serait plus assez fraîche pour émoustiller les passagers masculins. « D'accord, lâcha-t-elle, ça m'intéresse. »« Ce sera long, » fit sévèrement Evgeny. « Il faudra apprendre. » Les femmes sont naturellement douées pour le mensonge, la traîtrise et la comédie. Mais ça ne suffit pas à faire une bonne espionne. « J'apprendrai, » fit Yumiko. « Contactez-moi dès mon retour à Tokyo. » Puis, lui tournant le dos, elle s'enfonça dans la nuit. Oui, c'était de cette manière que tout avait commencé, 12 ans plus tôt. Yumiko s'orienta d'après le plan qu'elle avait retiré à la consigne automatique de la gare au Torai de Fukukensai. Depuis près d'une heure, elle roulait au milieu des rizières, dans un paysage hors du temps, épargné par la modernité. Elle n'aurait pas été outre mesure étonnée d'y croiser un samouraï à cheval. Le bruit du moteur provoquait l'envol de grandes nuées d'oiseaux noirs entre les bambous. Cela lui remit en mémoire le célèbre conseil de Sun Tzu dans l'art de la guerre. Si l'on vous dit qu'on a vu des oiseaux attroupés voler par bandes sans s'arrêter, soyez en défiance. On vient vous espionner ou vous tendre des pièges. Le jour baissait. Elle devait à tout prix se présenter au rendez-vous avant la tombée de la nuit. L'équipe médicale n'attendait plus qu'elle pour passer à l'action. Elle finit par trouver ce qu'elle cherchait. Un panneau indicateur signalant la proximité d'une station thermale, aujourd'hui désaffectée en raison de la toxicité de ses eaux. Une haute muraille encerclait les bâtiments, leur donnant l'apparence d'un temple. Sur le portail de bois fissuré, deux démons sculptés avec un grand luxe de détails se livraient un combat sans merci. Yumiko s'engagea dans l'allée centrale. Les installations étaient à l'abandon depuis une dizaine d'années. On finissait par se demander à quoi avaient pu réellement servir ces cheminées encroûtées de suie. La jeune femme gara le véhicule sous un cerisier et descendit sans claquer la portière. Une lumière brillait au rez-de-chaussée. Un sifflement discret lui fit tourner la tête. Son œil entraîné isola une silhouette vêtue de noir tapie dans la pénombre. Une sentinelle. L'homme, dont la cagoule de ninja ne laissait voir que les yeux bridés, lui adressa un signe de la main. Il était équipé d'un pistolet mitrailleur Scorpio qu'alourdissait un énorme réducteur de son. « Tu es en retard, » siffla-t-il. Yumiko ne se donna pas la peine de répondre et se dirigea vers la lumière.
Le parc était rempli de guetteurs dissimulés sur les toits ou dans les arbres. Trois camionnettes banalisées de couleur sombre attendaient, garées le long de la façade. « Le laboratoire roulant », songea-t-elle. Elle aspira à fond pour chasser l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Elle ne cherchait pas à se cacher qu'elle avait peur. Ce qu'elle se préparait à faire dépassait les limites de l'endurance humaine. Poussant une porte, elle pénétra dans le hall d'admission. L'endroit jadis cossu n'était plus qu'une ruine. Le cuir des fauteuils avait moisi, les boiseries s'étaient décollées, les colonies de champignons dessinaient une carte au continent fantaisiste sur les murs. Son arrivée provoqua la fuite éperdue des petits animaux recroquevillés sous les canapés. Des lampes diffusant une lumière bleuâtre avaient été posées sur le sol afin de baliser le chemin. Il en allait toujours ainsi. Le laboratoire roulant s'installait à proximité de la cible dans un lieu désert. Dès qu'on l'aurait préparé, Yumiko disposerait de 3 heures pour mener à bien sa mission. 3 heures, pas une minute de plus. « Ah, te voilà !» marmonna un vieillard en blouse blanche campé au milieu du couloir. « Je commençais à croire que tu ne viendrais plus. » On l'appelait Isachan, monsieur le docteur. Il s'agissait bien évidemment d'un sobriquet. Personne ne connaissait sa véritable identité. Il en allait de même pour tous les autres membres du département Y. Ainsi, pour ses collègues, Yumiko se nommait Yoku Kikukusuri, autrement dit, Romaine de cheval. Un patronyme aux allures de plaisanterie macabre. Isachan sut sauter un fume-cigarette d'ambre clair qui lui donnait l'allure d'un officier de la police politique secrète dans un film de propagande américaine tourné pendant la guerre du Pacifique. Il était maigre, sans âge, nanti de mains aux doigts grêles, interminable. « Viens, ordonna-t-il, il faut faire vite. Tu dois être au château avant le début de la cérémonie. Comment te sens-tu ?»« Bien, répondit Yumiko en franchissant le seuil de la salle de préparation. » Comme à l'accoutumée, un frisson désagréable courut le long de sa colonne vertébrale lorsqu'elle aperçut la table d'opération et le gros sialytique. Des caissons mobiles formaient un rempart autour du lieu d'intervention. Dès que la mission serait terminée, tout ce matériel retournerait dans les camions et la station thermale serait rendue à ses vrais occupants, les fouines, les belettes et les renards. Kosuriya, l'assistant pharmacien d'Ijasan, se tenait en retrait, attendant un signe du maître pour allumer les ordinateurs de contrôle. C'était un jeune homme au regard fuyant, un génie précoce dans le domaine des nanotechnologies. Sans même le saluer, la jeune femme entreprit de se dévêtir. Quand elle fut nue, elle marcha vers la table d'intervention et s'y allongea. « Bien, bien, marmonna Isachan, décontracte-toi, ne pense à rien. » Les machines bourdonnèrent. Le sialytique s'alluma, fusillant Yumiko de sa lumière blanche. « Tu dois bien comprendre que les choses ont changé », lui avait déclaré Evgeny à la fin de la deuxième année de formation. Les espions d'aujourd'hui sont confrontés à des difficultés que leurs prédécesseurs n'auraient pas osé imaginer. À l'époque de la guerre froide, les ordinateurs n'existaient pas, les systèmes de sécurité étaient très sommaires. Un bon cambrioleur pouvait venir à bout de n'importe quel coffre-fort. Un homme bien entraîné était capable de résister à la torture. Il suffisait d'être observateur et malin pour déjouer une filature. De nos jours, l'espérance de vie des espions des années 50 se réduirait à 48 heures. L'informatique permet des miracles. Un satellite tournant autour de la Terre peut capter une conversation murmurée dans la cave d'un immeuble new-yorkais. Un simple téléphone portable peut se changer en micro-espion et enregistrer les paroles de son propriétaire à l'insu de celui-ci. Quant aux systèmes de sécurité, ils sont devenus si pointus qu'à moins d'être sorti major d'une promotion du MIT, il serait vain d'espérer les mettre hors service. Or, un bon espion n'est pas forcément un as des mathématiques. De même qu'un as des mathématiques ne fait pas obligatoirement un bon exécuteur. L'homme universel n'existe plus. Le monde est devenu trop complexe. Yumiko partageait cette opinion. La dure formation qu'elle venait de suivre lui avait appris qu'il n'y a guère qu'au cinéma que les agents secrets cassent les codes d'accès des super-ordinateurs en 30 secondes pour, la minute d'après, affronter à mains nues 10 adversaires armés jusqu'aux dents et les mettre KO, sans verser une goutte de sueur ni même froisser leur smoking. Dans le monde réel, les choses étaient un poil plus difficiles. Dans la réalité, continua Evgeny, un espion ne possède jamais la panoplie complète du super-héros. Il est bon dans un domaine, mais médiocre dans l'autre. Ce sera par exemple un comédien parfait, capable d'endosser les rôles les plus divers, un spécialiste de l'infiltration.
Hélas,
sa résistance à la douleur sera peu élevée, ses capacités physiques médiocres. Poursuivi, il se révélera incapable de semer ceux qui le traquent, ou encore de les affronter en combat singulier. Je te donne cet exemple parmi cent autres. Tout cela pour te dire qu'un espion aujourd'hui n'a plus le droit à l'erreur, car les machines le guettent, les machines le trouvent, les machines le tuent. Yumiko demeurait silencieuse. Ainsi, tout ce qu'on lui avait infligé au cours des derniers mois ne constituait qu'un hors-d'œuvre. Le pire était encore à venir. Le pire, c'était ce dont Evgeny allait lui parler à présent. « Nous avons besoin d'une nouvelle race d'espions, » conclut le Russe. « Des hommes, des femmes, extrêmement résistants, plus rapides, plus forts. Des gens capables d'endurer des souffrances atroces, des blessures mortelles, mais de n'y prêter aucune attention et de poursuivre la mission sans s'arrêter à ces détails. « Comment cela se pourrait-il ? » demanda la jeune femme, sagement assise, les mains sur les genoux, dans l'attitude d'une novice écoutant son maître. « As-tu entendu parler des nanotechnologies ?» murmura Evgeny en s'asseyant pour se rapprocher d'elle. « Il s'agit de machines minuscules, mille fois plus minces qu'un cheveu arraché à la tête d'un bébé. » Assez petite pour se glisser à l'intérieur du corps humain sans lui causer la moindre blessure. Pour simplifier, disons qu'on pourrait les comparer à des machines vivantes de la taille d'une bactérie, voire plus petite encore. Ces particules infimes peuvent être programmées pour une tâche définie à l'avance. Il est possible de leur assurer une mission si tu préfères. Elles se regroupent alors et s'organisent pour devenir compétentes en fonction du problème à résoudre. « Des machines ? » bredouilla Yumiko. Qu'on injecte au moyen d'une seringue ? Oui, c'est à peu près ça. Toutefois, il ne s'agit pas de machines au sens où nous l'entendons habituellement. Elles ne sont pas constituées de métal, de composants électroniques, de circuits intégrés. Non, il conviendrait plutôt de les imaginer sous la forme d'animaux microscopiques constitués de matière organique. Tu sais qu'elles remplaceront bientôt les puces de nos ordinateurs ? Oui, Yumiko l'avait entendu dire. Elle savait également que les nanoparticules permettraient de fabriquer des ordinateurs de la taille d'une tête d'épingle qu'on incorporerait aux objets. Des ordinateurs invisibles et mous dont on ne soupçonnerait pas la présence. On parlait de les implanter dans les étoffes, les vêtements, obtenant ainsi des robes qui changeraient de couleur et de motif selon les variations de la lumière. Evgeny fit une pause, le temps d'allumer un énorme cohiba. Il avait pris cette habitude dans sa jeunesse lorsqu'il occupait le poste de conseiller culturel auprès de Fidel Castro. Yumiko détestait les affaîtiries des fumeurs de Havane. Leur façon de porter le rouleau de tabac à l'oreille pour l'écouter craquer, leur mimique gourmande de vieux bébés occupés à téter la fumée du gros étron fiché entre leurs lèvres. Ce jour-là, elle se garda d'afficher son aversion. Evgeny était un homme dangereux. Mécontent, il aurait pu utiliser son coupe-cigare pour lui trancher la première phalange de l'auriculaire, comme ça, juste pour lui apprendre la politesse. Elle se demandait toujours où il voulait en venir. Le département Y a besoin d'espions qui soient en mesure de traverser les systèmes de défense les plus sophistiqués et d'atteindre leur cible sans se laisser ralentir par la douleur, les blessures, même graves. Je ne comprends pas. Bredouilla la jeune femme. Mais si, s'impatienta le Russe, imagine un exécuteur pénétrant en territoire ennemi. Il se fait mordre par une meute de Doberman, puis une sentinelle lui tire une balle dans le dos. Enfin, en franchissant une clôture électrifiée, il reçoit une décharge de 100 000 volts qui provoque un arrêt cardiaque. Malgré cela, il se relève et continue la mission. Pour finir, il localise la cible et l'abat. Puis il s'enfuit et rejoint l'unité chargée de l'exfiltrer. C'est impossible, Alta Yumiko,
tout en sachant qu'Evgeny ne parlait pas à la légère.
Pas du tout, gronda son interlocuteur. Pas si l'espion en question a été préparé en conséquence. Préparé? Oui, au moyen de la nanotechnobiologie. Imagine qu'avant de l'envoyer à une mort certaine, que dis-je, à des morts certaines, le service qui l'emploie ait pris soin d'injecter dans ses veines une véritable armée de nanoparticules programmées pour le réparer de l'intérieur. Quoi ? C'est possible. Des nanoparticules auxquelles on aura insufflé la science, le savoir et l'expérience d'une trentaine de chirurgiens militaires parmi les meilleurs. Des toubibs habitués à opérer sur les champs de bataille. Il est possible de programmer ces données dans la mémoire des nano-éléments, de telle façon que le personnel d'un hôpital tout entier coule dans tes veines, se promène dans tes artères, navigue d'organe en organe. Tu commences à comprendre ? Un agent ainsi équipé s'en irait en mission, nanti d'une sacrée trousse de secours.
« Vous voulez dire, intervint Yumiko, qu'à chaque blessure encaissée, les nanoparticules le répareraient de l'intérieur ?» Oui, exactement. Elle se regrouperait par domaine de compétences, suturerait les veines, les chairs. À l'heure actuelle, on est en mesure de les programmer pour qu'elles s'organisent entre elles, de manière à remplacer les organes lésés ou détruits. Si une artère est sectionnée, elles combattent la fuite en formant des amas qui auront la texture et la fonction du tissu vivant humain. Si un chien t'arrache un muscle, elles se précipiteront dans la blessure pour combler le vide et modeler des fibres musculaires de remplacement, ayant la même fonction. Cela signifie qu'au fur et à mesure qu'on cherchera à te tuer, ta clinique interne te remettra en état. Yumiko était abasourdie. Elle faillit crier qu'elle n'y croyait pas, que c'était impossible. Evgeny eut un sourire paternaliste. « Je sais que tu me prends pour un fou, lâcha-t-il. Pour te prouver que je n'invente rien, nous allons nous rendre au laboratoire. Toute l'équipe scientifique est japonaise. Cela devrait te rassurer. » C'est ainsi que Yumiko avait fait la connaissance d'Ijasan. Une momie vivante dont, disait-on, toute la famille avait été tuée lors du bombardement d'Hiroshima. Seul survivant, il avait passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, au milieu des blessés dévorés par les radiations. Il s'était promis de trouver, un jour, le moyen de remédier aux pires atteintes corporelles. Son circuit sanguin charriait des milliards de nanoparticules qui, à chaque seconde, réparaient son organisme défaillant. Sans cette maintenance interne, il serait mort depuis longtemps. C'est du moins ce que prétendait Evgeny. Nous allons procéder à une démonstration élémentaire. Nasilla le savant, un fume-cigarette coincé entre les dents, ce qui rendait son élocution difficile. Je vais injecter à ce lapin un kit complet d'autoréparation. Ces particules ont été programmées avec le savoir de 3 vétérinaires ayant une expérience des interventions chirurgicales complexes. Je pense que cela devrait suffire. Yumiko le regarda inoculer à la bestiole un liquide incolore qui, apprit-elle, contenait en réalité plusieurs milliards d'éléments programmés. Pendant une demi-heure, les injections se poursuivirent en divers points du corps, puis le lapin fut remis en liberté dans le jardin de l'Institut. Alors qu'il gambadait au milieu d'une allée, Ijasan ouvrit un placard, en sortit un fusil et, par la fenêtre ouverte, le foudroya d'une balle dans le ventre. Le lapin fit un bond dans les airs, retomba sur le sol et se roula en boule. « Vous pensez qu'il est mort, n'est-ce pas ? » ricana le savant d'un ton déplaisant en dévisageant la jeune femme. Et vous auriez raison, certes, si ses veines ne charriaient que du sang. Mais en ce moment, les nano-éléments injectés sont déjà à l'œuvre, stoppant l'hémorragie, reconstruisant ce qui a été détruit. Cela ne se voit pas, mais tout se passe comme si 10 000 chirurgiens travaillaient à toute vitesse sur cet animal. Des chirurgiens invisibles qui œuvrent dans son ventre. Vous allez voir. Et Yumiko vit, effectivement, le lapin s'ébrouer, se redresser et reprendre son trottinement. Seule sa fourrure blanche tachée de rouge témoignait du coup de feu dont il avait été victime un instant plus tôt. « Voilà !»
triompha Ijasan. Je puis vous équiper de la même manière, vous rendre invulnérable. Certes, vous ne serez pas plus forte que vos adversaires. Vous ne serez pas davantage assez rapide pour éviter leurs balles. Mais lorsqu'ils vous blesseront, vous ne resterez pas à terre. Cela, je puis vous le garantir.
Grâce aux nanoparticules, je suis en mesure de vous rendre immortel le temps d'une mission. Yumiko avait quitté le laboratoire dans un état de grand trouble. Elle s'était longtemps promenée dans les jardins du centre de formation, Evgeny à ses côtés, sans ouvrir la bouche, perdue dans ses pensées. Le Russe lui avait posé la main sur l'épaule pour la tirer de son hébétude. « Voilà, déclara-t-il, tu as compris ce qu'on attend de toi. Tu es bien sûr libre de refuser. Tu n'exécuteras que des missions de moindre importance. Ce dont le département Y a besoin, c'est d'une exécutrice haut de gamme, d'une tueuse que ni les gardes du corps ni les systèmes de sécurité n'arrêteront. Quelqu'un qu'on peut frapper, mais que rien n'empêche d'aller jusqu'au bout, ni la souffrance ni les blessures. » « Je vous donnerai ma réponse demain matin, » souffla Yumiko. Elle s'éloigna en direction de la cantine dont la cloche venait de sonner. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'image du lapin ressuscité la hantait. Elle n'avait pas envie de passer sa vie professionnelle en pauvre filature, en coucheries diverses et variées. Elle savait parfaitement ce qui attendait les femmes au sortir de l'école. La plupart deviendraient des putains condamnés à compromettre de hauts fonctionnaires ou à leur extorquer des confidences sur l'oreiller. Yumiko avait elle-même été entraînée en ce sens. Durant 6 mois, elle avait suivi les cours de professeurs intraitables avec qui elle avait dû coucher en feignant d'éprouver un plaisir intense. On lui avait tout appris sur les fantasmes masculins et cela avait achevé de la détourner des hommes. Pour finir, on lui avait demandé de satisfaire une dizaine d'inconnus choisis parmi les plus sales et les plus laids d'un asile d'aliénés. Et cela sans jamais laisser voir son dégoût. Elle avait triomphé de ses pièges grossiers car elle savait jouer à la perfection la comédie de la jouissance. Malgré tout, cela ne lui convenait pas. Elle voulait davantage. Le sexe ne l'excitait pas. Le meurtre, si. Elle voulait devenir une tueuse d'élite. L'un de ces personnages invincibles dont les mangas retracent les incroyables aventures. Quand le jour fut levé, elle se rendit au bureau d'Evgeny et lui dit qu'elle acceptait de devenir un agent hit and run, une exécutrice du Destroy. « Voilà, souffla Ijasan, c'était la dernière injection. Comment te sens-tu ?»« Bien, répondit Yumiko, toujours étendue sur la table. »
« À partir de maintenant, tu disposes de 3 heures, » insista le vieillard. « Tu sais qu'ensuite, il te faudra revenir ici au plus vite pour procéder à l'extraction des nanoparticules inemployées. »«
Vous me le répétez à chaque mission, » soupira la jeune femme. « C'est la procédure, » siffla le savant sur la défensive. « Il serait dangereux de laisser les éléments inutilisés errer à travers ton corps. Leur programmation s'affaiblit au fil des heures. Plus on attend, plus on court les risques de les voir faire n'importe quoi. »
Yumiko s'assit toujours nue. La tête lui tournait un peu. Elle éprouvait un étrange fourmillement au long des bras, comme si des milliers d'insectes couraient sous sa peau. Ijasan prétendait qu'il s'agissait d'une simple illusion. Elle n'en était pas aussi sûre. Pendant les 3 prochaines heures, les particules seraient à leur top niveau, ensuite les choses se dégraderaient. Leur programmation initiale s'effacerait, elles perdraient de vue la raison de leur présence au sein de cet organisme inconnu. Beaucoup se contenteraient de naviguer au hasard des artères sans but précis, mais d'autres s'inventeraient des missions aberrantes. Ijasan prétendait en avoir observé qui s'amusaient à modifier les entrailles du sujet au gré de leur fantaisie, lui fabriquant de nouveaux organes aux fonctions mystérieuses. Elles veulent à tout prix se montrer performantes, expliquait-il. Elles essaient de le prouver en corrigeant l'anatomie humaine, afin que celui qui les abrite soit plus solide. Cela peut rapidement devenir dangereux. En fait, elles ne sont réellement intelligentes que 3 heures durant. Au-delà, tout se gâte. Le programme s'égare, sa logique se radicalise en se pervertissant. Il continue de faire ce qu'on attendait de lui, mais trop bien. Son intelligence devient folie, obsession. Croyant améliorer son hôte, il le détruit.
Yumiko se dirigea vers la mâle cabine contenant les vêtements qu'elle devait endosser pour la soirée. Evgeny la regardait faire, son éternelle cigarette à filtre cartonné entre les doigts. « Tu vas t'introduire dans le château en te mêlant aux artistes, récapitula-t-il. Ils ne te poseront aucune question. Ces gens travaillent pour nous en freelance. Ils nous fournissent une couverture commode quand c'est nécessaire. Dès la fin de ton numéro, éclipse-toi. Profite de ce que l'attention du public sera fixée sur la scène. L'homme que tu dois tuer ne sera pas dans la salle. Il suivra le spectacle sur un écran géant depuis ses appartements sécurisés. Il n'a pas fait une seule apparition publique en 5 ans. Il dirige ses affaires depuis son bunker, sans aucun contact direct avec ses interlocuteurs. Son existence est devenue quasiment virtuelle. Il vit comme une taupe, enterré sous le château au centre d'un labyrinthe de galeries hérissées de défenses. Un paradis pour paranoïaques. C'est ce labyrinthe que tu devras traverser pour parvenir jusqu'à lui et le tuer. À moins de lâcher une bombe atomique sur le château, il n'existe aucun autre moyen de le supprimer. En s'emmurant sous une chape de béton et de blindage, il est devenu intouchable, tel un président dans son PC de crise nucléaire. Il vit en ermite, sans besoin sexuel d'aucune sorte. Le pouvoir suffit à combler ses fantasmes. Un pouvoir absolu qu'il peut exercer dans le monde entier par l'entremise d'un clavier d'ordinateur. Les analystes estiment qu'il souffre d'agoraphobie, qu'il est désormais incapable de quitter son terrier. On a peu de chance de le voir un jour remonter à la surface. Il faut donc aller le chercher là où il se trouve, sous la terre. Yumiko acheva de lacer ses bottines. Evgeny ne lui apprenait rien. Elle avait étudié le dossier en bonne professionnelle. Elle ignorait seulement pourquoi cet homme devait mourir. Au vrai, elle s'en fichait. Cela ne la regardait pas. Les agents d'exécution n'étaient jamais informés des raisons secrètes présidant à la condamnation de la cible. Ils étaient là pour agir, rien de plus. Ce mode de fonctionnement convenait à la jeune femme. La politique ne l'intéressait pas. Son seul souci était d'être la meilleure et d'effectuer la mission sans bavure. « Je suis prête, » annonça-t-elle en posant un imperméable sur ses épaules. « Ito va t'emmener au château, » dit simplement Evgeny. « Les comédiens ne te poseront aucune question. Ne te donne pas la peine de leur mentir, ça n'a pas d'importance. Tu passeras en début de programme, c'est-à-dire dans 30 minutes. » Yumiko s'éloigna sans un salut. La voiture l'attendait devant le bâtiment, le contact mis. Elle s'installa à l'arrière, tandis que le chauffeur démarrait en évitant de croiser le regard de sa passagère dans le rétroviseur. Le véhicule s'élança dans la nuit. Il ne subsiste plus au Japon qu'une demi-douzaine de châteaux samouraïs. Au XVIIe siècle, le shogun Yemasu Takugawa on a confisqué près d'une centaine afin d'affaiblir le pouvoir de ses vassaux. Celui qui se dressait présentement au sommet de la colline était une copie du château Matsumoto, érigé en 1579. Un bel édifice nanti de plusieurs donjons de moindre importance satellisait à la périphérie d'une tour centrale. Celui qui le possédait était à coup sûr d'une insolente richesse. Un camion attendait au carrefour, tout faisait éteint. Yumiko descendit de la voiture et gagna l'arrière de la fourgonnette dont les portes s'entrebâillèrent. 4 hommes et 3 femmes s'y trouvaient serrés, une expression tendue sur le visage. Ils s'inclinèrent brièvement lorsque Yumiko s'installa à leur côté, mais aucun mot ne fut prononcé. Divers ballots entassés sur le plancher réduisaient à presque rien l'espace dévolu aux comédiens. Yumiko se ratatina dans un coin tandis que le camion s'élançait en direction de la colline. Officiellement, elle était là pour exécuter en public une exhibition d'arts martiaux. Il s'agissait d'un numéro de virtuosité destiné à mettre en valeur la puissance et la précision des armes de jet allant de la lance à la simple aiguille. Yumiko possédait suffisamment la technique du ninpo pour faire illusion auprès d'un public de béotiens. Sa formation l'avait initiée au secret des ninjas, et elle s'était montrée d'une adresse remarquable au maniement du couteau. Sur scène, elle ferait équipe avec un lanceur qui la bombarderait avec les cartes de la mort, ces cartes métalliques tranchant comme des lames de rasoir. Elle devrait parer ses coups mortels en usant du classique éventail de fer de Tassem, dont les bords affûtés pouvaient trancher une gorge d'un simple revers de la main. La démonstration se ferait en costume traditionnel, au son aigrelé des cordes d'un chamisen. L'exhibition, sous aisère de danse gracieuse, comportait des risques certains. Si Yumiko se montrait trop lente dans ses parades, les étoiles de fer lancées avec une grande puissance lui sectionneraient la carotide ou lui crèveraient un œil.
Ça revient à jouer au tennis avec un poignard en guise de balle, avait grogné Evgeny. L'éventail tient lieu de raquette. La jeune femme aurait certes préféré jouer le rôle d'une chanteuse ou exécuter une pantomime empruntée au répertoire du théâtre No. Hélas, ses performances n'auraient que fort médiocrement intéressé le public rassemblé ce soir au château. Et composée pour la plupart d'hommes cruels, ignorant la pitié, même si, en apparence, ils aimaient à se présenter dans les milieux de la haute finance comme des gens de la meilleure société.
Yumiko jeta un rapide coup d'œil à son partenaire, un jeune homme maigre et souple répondant au nom de Takeda. Faute de temps, il n'avait répété le numéro que deux fois. C'était peu. Et le garçon tremblait à l'idée que la fille à l'éventail ne se montrât point à la hauteur. On ne plaisantait pas avec les étoiles d'acier. Si l'une d'elles se fichait dans le front de la jeune femme, elle mourrait sur le champ, le cerveau transpercé. Takeda savait que cet accident sonnerait le glas de sa carrière, car plus personne ne voudrait travailler avec lui. Il avait d'abord imaginé de retenir ses coups, mais le public ne manquerait pas de repérer sa supercherie et de crier au chiquet. Il avait les mains moites, c'était dangereux. Une étoile mal empoignée pouvait couper les doigts du lanceur, voire l'amputer d'une ou deux phalanges. À mi-chemin du sommet, la camionnette fut arrêtée par un barrage d'hommes armés qui vérifièrent l'identité des artistes et inspectèrent leurs bagages. Le sac contenant les étoiles déclencha un début d'affolement, mais le chef des comédiens se dépêcha d'exhiber une autorisation signée de la main même du responsable de la sécurité et le problème fut résolu en deux appels téléphoniques. La fourgonnette reprit son ascension. Yumiko sentait peser sur elle les regards de ses compagnons et s'en amusait. Ils avaient peur d'elle et de ce qu'elle représentait. Pour eux, elle appartenait à l'armée des kamikazes. Sans doute s'apprêtait-elle à mourir en martyr, car aucun être doué de sens commun ne pouvait prétendre défier les formidables défenses du château sans perdre aussitôt la vie, et cela dans d'abominables souffrances. Lorsqu'ils atteignirent les remparts, ils furent pris en charge par de nouvelles sentinelles qui, après avoir encore une fois vérifié leurs identités, les introduisirent dans la place. Des serviteurs en costume féodal les guidèrent alors à travers le dédale des corridors jusqu'à leur loge. Là, les femmes de la troupe se jetèrent sur Yumiko pour lui passer son kimono et assujettirent sur sa tête la perruque reproduisant la coiffure traditionnelle des dames de cour. Des éclats de rire lointains leur parvenaient à travers les minces cloisons de papier de riz. On donnait une représentation du théâtre kabuki, un genre mêlant action et farce grossière qui, à la différence du no, était très apprécié des spectateurs incultes en raison du tourbillon dynamique généré par les acteurs. Yumiko ouvrit le coffret de laque noire contenant le tassen, un éventail constitué de lames d'acier articulées qui, une fois déployées, se révélait aussi tranchant qu'une lame de sabre. Samouraï et ninja en avaient jadis utilisé de semblables. Au premier regard, l'objet avait l'apparence familière d'un banal éventail de bois peint. Il fallait toutefois se garder de promener l'index sur son bord supérieur si l'on ne voulait pas s'entailler la chair jusqu'à l'os. Un assistant parut au seuil de la pièce, s'inclina pour annoncer 5 minutes. Yumiko ferma les yeux et s'appliqua à discipliner l'impatience qui bouillait en elle. Les minutes filaient, et elle était dans l'incapacité d'estimer le temps qui lui serait nécessaire pour triompher des défenses du labyrinthe. Les nanoparticules allaient et venaient au long de ses circuits sanguins, déjà en alerte, auscultant les organes, prête à intervenir à la première lésion. 3 minutes, souffla l'assistant. Si les honorables comédiens veulent se donner la peine de me suivre. La troupe se redressa. Tous s'étaient costumés en un temps record. après le numéro de lancer des étoiles, deux sabreurs se livreraient à un simulacre de combat et, à l'aide de mannequins, feraient une démonstration de coups uniques, c'est-à-dire qu'ils dégaineraient et tueraient leur adversaire en un seul mouvement coulé d'une grande économie, à l'opposé de la conception occidentale de l'escrime. On verrait notamment le fameux okeza qui permet de trancher un homme en deux selon une diagonale qui va de l'épaule à la hanche opposée. Suivrait le hasen maki, décapitation, et ryo kuruma, jambe sectionnée à hauteur du genou. Ce serait un spectacle propre à captiver les hommes présents dans le public. Afin de rendre la performance encore plus spectaculaire, les mannequins avaient été bourrés de vessies d'hémoglobine qui ne manqueraient pas d'exploser au passage de la lame. La scène classique représentait le fronton d'un temple et un pont enjambant un cours d'eau. Un shamisen sanglotait quelque part. La salle n'était qu'un trou noir peuplé d'ombres informes. Yumiko gonfla ses poumons et s'élança sur les traces de son partenaire. Le numéro ne durait qu'une dizaine de minutes, mais nécessitait une intense concentration. Yumiko devait repérer le départ des lames, prévoir leur trajectoire et exécuter la parade adéquate. Une technique semblable à celle du tennis, à ceci près qu'une balle de tennis ne risque pas de vous amputer d'une oreille ou de vous sectionner les doigts. Avant de commencer, Takeda pria les honorables spectateurs de vérifier le tranchant des lames en débitant en rondelles les bambous disposés devant la scène. Cette précaution observée, les étoiles commencèrent à siffler et vrombir en tourbillonnant dans l'air. Takeda les lançait en rafale dans le plus pur style ninja. Jadis, un paquet de cartes de la mort permettait à un assassin nocturne de liquider une dizaine de poursuivants. Mais c'était avant l'invention des armes à feu. Yumiko bondissait comme une diablesse, utilisant l'éventail de fer pour dévier les projectiles, à la seconde où il s'apprêtait à toucher sa gorge, ses seins ou son visage. Le silence se fit dans la salle. Les spectateurs avaient conscience d'assister à un numéro d'une extrême virtuosité, exempt de tricherie. La femme à l'éventail prenait des risques insensés. Elle était très belle. Il suffisait d'un faux mouvement pour qu'elle soit défigurée à jamais. Cette perspective chargeait l'atmosphère d'une électricité malsaine qui excitait les mâles, mais aussi leurs compagnes. On attendait le moment fatidique où l'on verrait une oreille se détacher, un doigt tomber, une joue se fendre tel un melon trop mûr. Les 10 minutes semblèrent une éternité à Yumiko. Elle craignait qu'à la première blessure, les nanoparticules ne trahissent leur présence en se livrant à un quelconque prodige organique. Comment réagirait le public si son visage balafré se mettait à cicatriser en accéléré? Ou si, sur le moyen d'un index sectionné, poussait soudain le bourgeon d'une phalange neuve? Mettrait-on ce prodige sur le compte d'un tour de passe-passe ou bien... Un coup de gong sonna la fin de l'exhibition. Ils saluèrent sous un tonnerre d'applaudissements et regagnèrent la coulisse. L'une des femmes de la troupe attendait dans la pénombre. Prenant un kimono semblable à celui de Yumiko, elle prit sa place dans le sillage de Takeda, tandis que la tueuse se recroquevillait dans un coin d'ombre. Là, elle s'accorda le temps de s'orienter, puis se faufila dans un corridor annexe, tandis que les sabreurs gagnaient le devant de la scène. Elle se déplaçait sans marquer d'hésitation, car elle connaissait par cœur le plan du château avec ses pièges, ses chausse-trappes. Comme toutes les demeures de samouraï, celle-ci regorgeait de passages secrets, de plafonds creux, de pièces cachées et de fosses garnies d'épieux. Sous certains tatamis, béaient des puits conçus pour que les intrus s'y brisent le cou. Il importait donc de savoir très exactement où l'on posait les pieds, si l'on ne voulait pas finir dans une oubliette. La jeune fille triompha de ces embûches grossières sans difficulté. La véritable partie commencerait au seuil du labyrinthe souterrain. Ce tunnel menait au bunker de l'homme qu'elle devait assassiner. Evgeny avait obtenu d'un gardien corrompu certains détails qui faisaient froid dans le dos. Ainsi, il était tout à fait impossible de désamorcer les dispositifs de sécurité, car l'ordinateur les commandant se trouvait au sein du blockhaus, entre les mains du seigneur des lieux. Lui seul était en mesure de les désactiver. Devenu paranoïaque, il n'avait physiquement rencontré personne depuis 5 ans. Il vivait en complète autarcie, entouré de congélateurs bourrés à craquer. Il ne communiquait avec son personnel que par écran interposé. Tous ceux qui avaient tenté de violer son repère avaient trouvé la mort dans d'atroces souffrances. Yomiko ne nourrissait aucune illusion. Elle devait se préparer au pire. Apparemment, il s'agit d'un simple tunnel enterré, lui avait expliqué Evgeny. Un tunnel de béton qui décrit une spirale. Dès que les détecteurs de mouvement repèrent un intrus, ils analysent sa morphologie, son iris, les circonvolutions de ses lobes d'oreille. S'ils estiment que le nouveau venu ne correspond pas au maître des lieux, une vanne s'ouvre, inondant la galerie. Certains ont cru tourner l'obstacle en s'y glissant, revêtus d'un équipement de plongée, et avec assez d'oxygène pour tenir 3 heures immergées. C'était ignoré qu'un courant de 100 000 volts traverse l'eau toutes les 5 minutes. Assez puissant pour électrocuter un bœuf. Encore une fois, on peut imaginer y échapper en se couvrant de caoutchouc de la tête aux pieds. Mais il y a le reste. Quand le tunnel se vide, c'est pour se changer en four crématoire. On y cuit comme un poulet à la broche. La peau se détache des os avant qu'on ait eu le temps d'en sortir. La chaleur est si intense qu'elle n'a aucun mal à faire fondre les combinaisons antithermiques dont les petits malins pourraient s'envelopper. En outre, il y règne un vide absolu, sans un atome d'air respirable. Il est impossible de s'y promener avec une bonbonne d'air comprimé, car la chaleur la ferait exploser. De toute manière, le caoutchouc du respirateur fondrait lui aussi. Le système est au point. Rustique mais efficace. Une 10aine d'agents y ont trouvé la mort au cours des 5 dernières années. Inutile d'espérer couper la source d'alimentation énergétique, la centrale est enterrée, elle aussi, protégée par un bouclier de béton, comme le cœur d'un réacteur nucléaire. Voilà ce qui t'attend dans les sous-sols du château. Mais si l'on parvient au bout du tunnel, demanda Yumiko, comment pénètre-t-on dans le bunker? Apparemment, c'est impossible, souffla Evgeny. Puisqu'on se casse le nez sur une porte blindée qui, pour s'ouvrir, exige de visiteurs une analyse ADN. Quoi ? Je n'invente rien. On pose son pouce sur un testeur qui prélève une goutte de sang. La machine procède alors à une analyse comparative. Il s'agit d'un procédé très performant dont nous ignorons tout, mais le résultat s'affiche au bout de 3 minutes. Si l'ordinateur identifie l'ADN comme celui du maître du château, il débloque les verrous et la porte s'ouvre. Yumiko hocha la tête. « Oh, je vois, » souffla-t-elle. « Vous avez réussi à vous procurer un échantillon d'ADN de l'homme que je dois abattre, c'est ça ?»« Exact. Ces soldats ont eu beau faire le ménage derrière lui, détruire ses dossiers médicaux, incinérer les archives des médecins consultés par leur patron. Ils ont oublié une chose. » Lorsqu'il servait dans la marine impériale, notre ami a été opéré d'un polype au côlon. Dans ce type d'ablation, on a coutume de procéder à un examen histologique de l'excroissance afin de déterminer si elle est d'essence maligne. Ce prélèvement a été mis sur la mêle et analysé, selon la procédure habituelle. Or, les services médicaux de l'armée conservent ces lamelles pendant des 10aines d'années. Nous les avons récupérées. À partir de ces fragments tissulaires, Ijasan a reconstitué l'ADN de notre cible. Il a synthétisé une petite quantité de sang suffisante pour donner le change. Ce sang est stocké dans une capsule, sous la peau de ton auriculaire gauche. Celui que tu poseras sur le palpeur d'examen lorsque la machine te demandera de prouver ton identité. L'aiguille, en perçant ton épiderme, se plantera dans la capsule et pompera le sang synthétique. On t'a également collé une fausse empreinte digitale en silicone dont les crêtes reproduisent celles de notre homme. La comparaison d'ADN sera positive. La porte s'ouvrira. Encore faut-il que tu arrives jusque-là. Yumiko fit coulisser un panneau mobile et s'agenouilla. Elle sourit en notant que dans sa mégalomanie, leur hôte s'était autorisé à recouvrir le sol de tatamis impériaux. Elle souleva la natte de paille de riz, démasquant une trappe d'acier. L'entrée des souterrains. Après l'avoir relevée, elle se glissa dans l'ouverture. Des échelons métalliques menaient au fond d'un tunnel qu'éclairaient des veilleuses bleuâtres.
La jeune femme rabattit la trappe derrière elle et descendit. Elle se déplaçait à présent dans un couloir cylindrique tapissé d'un revêtement lisse. Sans perdre une seconde, elle se défit du kimono pour en déchiqueter l'obi. Elle récupéra ainsi l'équipement spécial qui s'y trouvait dissimulé, à savoir deux combinaisons intégrales constituées d'un matériau de synthèse étonnamment résistant. L'une d'elles avait été conçue pour résister à la morsure des flammes pendant 10 minutes. Il s'agissait à l'origine d'un sous-vêtement de protection destiné aux pilotes de compétition. Son coût de fabrication prohibitif en avait interdit la commercialisation. Yumiko l'enfila en premier. Elle eut bientôt l'impression d'être emballée dans un préservatif géant. La combinaison collait à ses formes à la manière d'un épiderme artificiel. L'autre vêtement, plus épais, avait la luisance de la peau de requin. C'était un isolant ne laissant pas un pouce de chair à nu et qui permettait d'échapper aux décharges électriques, aux aspersions d'acide ainsi qu'aux attaques virales. Extensible et ne pesant rien, il tenait dans un porte-monnaie. Le gros problème, avait expliqué Evgeny, réside dans l'absence d'ouverture. Deux pastilles translucides à la hauteur des yeux te permettront de voir ce qui se passe autour de toi. Mais ces combinaisons ne comportent aucun autre orifice. Cela signifie qu'une fois enfilées, elles te mettent dans la situation du type qui, pour se suicider, se colle un sac en plastique sur la tête. Il te sera impossible de respirer. On ne peut pas courir le risque de te donner une bouteille d'oxygène, même gainée de caoutchouc. Elle explosera quand la température s'élèvera au sein du tunnel. Tu seras alors déchiqueté par les éclats. Or, il y a tout de même une limite au miracle accompli par les nanoparticules. Si tu te transformes en puzzle humain, elles ne te seront d'aucun secours. Yumiko enfila la deuxième combinaison en prenant soin d'occulter sous un rabat étanche la fermeture à glissière. Les lentilles disposées à la hauteur des yeux réduisaient son champ de vision. En outre, d'ici 3 minutes, l'oxygène emmagasiné dans ses poumons s'épuisant, elle commencerait à suffoquer. Ce serait le moment où les nanoparticules entreraient en scène, avec pour mission de remédier à ce problème. La tueuse fit quelques pas. Au clignotement des lampes, elle devina que les détecteurs de mouvement avaient repéré sa présence et décidé qu'elle ne ressemblait nullement au maître des lieux. La réplique n'allait plus tarder. Presque aussitôt, le tunnel se remplit d'eau bouillonnante dont la température n'excédait pas 2 degrés. Tout avait été prévu pour frapper d'hypothermie un éventuel nageur équipé d'une combinaison autonome. Yumiko eut soudain l'illusion d'avoir été plongée dans une baignoire remplie de glaçons. Elle ferma les yeux et attendit patiemment que son corps s'adapte aux nouvelles données de l'environnement. Au fond de son ventre, les nano-éléments étaient déjà à l'ouvrage, modifiant le réglage de son thermostat interne. D'abord, ils augmentèrent la couche adipeuse du derme, fabriquant un isolant naturel en tout point analogue à celui des ours polaires. Ensuite, sentant poindre l'hypoxie, ils modifièrent les échanges gazeux de Yumiko en s'inspirant du fonctionnement des plantes qui absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Analysant la situation à une vitesse phénoménale, il cherchait la réponse appropriée, celle qui permettrait d'annuler l'agression. Cela leur était d'autant plus facile qu'on avait nourri leur mémoire avec un savoir englobant la biologie, la zoologie, la botanique. Des sciences où il leur était possible de trouver les éléments d'une contre-offensive rapide. Les millions de lignes de code du programme écrit par Ijasan leur demandaient de se montrer créatifs, d'improviser, de bricoler les organes à leur guise, de la manière la plus folle qui soit, pourvu que leur hôte reste en vie. C'était là l'unique raison de leur présence. S'opposer à tout préjudice, réparer coûte que coûte. Adapter, 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 afin de contourner la menace et de la rendre inopérante. Dans les minutes qui suivraient, Yumiko subirait une multitude de mutations improvisées. Certaines fonctionneraient, d'autres seraient abandonnées en cours d'élaboration dès que le programme les estimerait obsolètes ou inadaptées. Le danger avec cette technique, répétait Evgeny, c'est de voir des mutations transitoires se pérenniser, s'installer à demeure. Autrement dit, si les nanoparticules se transforment en poissons pour te permettre de survivre à la noyade, il n'est pas impossible que tu restes poisson une fois le danger écarté.
et cela pour toujours. Je schématise, bien sûr. Quoi que raconte Ijasan, nous sommes en présence d'une technologie balbutiante. Quand on manie des millions de lignes de code, il faut s'attendre à des bugs. C'est inévitable. L'engourdissement s'emparait du Yumiko. Les nanoparticules allaient la plonger en hibernation afin de ralentir ses échanges vitaux au minimum, ce qui faciliterait leur travail de reconstruction. Endormie, elle consommerait moins d'oxygène. En cela, les nano-éléments s'inspiraient des reptiles, dont le cœur possède la faculté de réduire son activité à 3 pulsations par minute. La jeune femme s'abandonna. La combinaison de caoutchouc la protégerait des décharges électriques. Le seul vrai problème, c'était l'asphyxie. Combien de temps y résisterait-elle? À présent, le tunnel était entièrement rempli d'eau glacée. Aucun être normalement constitué ne pouvait survivre plus de 3 minutes dans un liquide aussi froid. Les naufragés du Titanic en avaient fait l'amère expérience. Yumiko se laissa couler au fond du cylindre, bras et jambes écartés. Le manque d'oxygène faisait bourdonner ses tempes. Elle suffoquait, la bouche grande ouverte sous le bâillon de latex de la cagoule protectrice. C'était une sensation abominable. Elle calcula qu'elle avait dépassé sa limite de résistance depuis plusieurs minutes et qu'elle aurait déjà dû être morte. Cependant, quelque chose s'était produit. Un miracle. Les nanoparticules avaient adapté son système d'échange gazeux à la pénurie d'oxygène, lui permettant de survivre en dépit de toute logique. « C'est ma première mort de la soirée », songea-t-elle en fermant les paupières. Elle sombra dans un état de semi-conscience. Un rêve éveillé. Les stimuli en provenance du dehors lui parvenaient sans l'affecter. 5 décharges électriques de forte puissance traversèrent la masse liquide emplissant le tunnel. Elle n'en souffrit pas, le caoutchouc l'isolait de ses atteintes. Estimant que l'intrus n'avait pu survivre à un tel déploiement d'hostilité, l'ordinateur procéda à la vidange des lieux. La galerie s'assécha dans un formidable bouillonnement. Yumiko, allongée dans une flaque, sortit enfin de sa torpeur. Elle suffoquait toujours. Elle devrait s'en accommoder jusqu'à la fin de la mission, puisque les pompes avaient maintenant placé le tunnel en état de vide absolu. Ôter sa cagoule ne lui aurait pas permis de mieux respirer. La galerie ne contenait plus une seule molécule d'oxygène. Elle entreprit de se redresser. Ce ne fut pas une mince affaire, car la pénurie d'air la condamnait à la lenteur. Elle bougeait, certes, mais au ralenti. Ses tempes bourdonnaient. Ses globes oculaires semblaient sur le point d'exploser. Une migraine atroce lui sciait le crâne. Elle s'obligea à faire un pas, puis un autre, puis un troisième. Chaque effort augmentait l'horrible suffocation. Elle songea que les nano-éléments avaient dû bricoler une sorte de filtre dans ses poumons, une membrane qui transformait le gaz carbonique en oxygène. Hélas, le débit n'était pas suffisant. Si elle commettait l'erreur de se presser, elle s'écroulerait, frappée d'embolie. Les nanoparticules, comprenant qu'elle souffrait, travaillèrent à multiplier les sécrétions d'endorphines, la plus puissante des drogues naturelles, celle que certains scientifiques n'hésitaient pas à surnommer la morphine du cerveau. Yumiko commençait à aller mieux quand la chaleur augmenta soudain au cœur du tunnel. « Le four », songea-t-elle. Les détecteurs de mouvement avaient signalé au centre de surveillance que l'intrus s'était relevé. Puisqu'il avait survécu aux premiers assauts, il convenait d'enclencher la vitesse supérieure. La sensation de brûlure s'atténua vite, car les nanomécaniciens avaient déjà réagi, alignant le métabolisme de la jeune femme sur celui des animaux du désert. Il était en effet important d'enrayer tout mécanisme de déshydratation. Une carence en sels minéraux n'aurait pas manqué d'entraîner des convulsions préjudiciables au bon déroulement de la mission. La tueuse poursuivait sa progression têtue vers le fond de la galerie. Tout au bout, brillaient les chromes d'une porte ronde, l'entrée d'un sas analogue à ceux des sous-marins atomiques. « Je suis une tortue allant au bout du monde », se dit-elle en positionnant son pied gauche devant son pied droit. Cette activité requérait toute son attention. Elle ne pouvait se permettre de perdre l'équilibre. Se remettre debout aurait été trop difficile.
Elle réalisa soudain qu'une matière molle coulait sur ses bras, sa poitrine. C'était gluant, ça bouillonnait, comme une crème oubliée sur le feu. La combinaison, comprit-elle, c'est la combinaison de caoutchouc qu'ils font sur moi. La chaleur à l'intérieur du tunnel devait être effrayante. Il lui fallait se dépêcher. Le second costume, bien qu'il ait subi un traitement antithermique, ne résisterait pas plus de 10 minutes au souffle dévorant pulsé par les 1000 bouches du four géant. Yumiko mesura du regard la distance qui lui restait à couvrir. Elle douta d'y parvenir en un laps de temps aussi court. Elle était à mi-chemin de la porte blindée quand la combinaison isolante se mit à fondre. Yumiko la vit se cloquer puis bouillonner sur le dos de ses mains. Privée de cette ultime pellicule de protection, elle se retrouverait nue au milieu du brasier. « Si cela se produit, songea-t-elle, je devrais garder les paupières closes pour protéger mes yeux de la chaleur. De même, il ne faudra pas ouvrir la bouche. Si je commettais l'erreur d'inspirer, le souffle brûlant pénétrerait dans ma gorge, m'attracher, me carbonisant les poumons. » Énumérer les recommandations du manuel lui permettait de conserver son calme. Elle avançait obstinément, la poitrine creuse, d'une démarche de vieillard. Ses pieds grignotaient mètre après mètre la distance qui la séparait encore de la porte blindée, celle dont l'auriculaire transportait l'ADN de la cible et qu'il fallait à tout prix empêcher de cuire. Une vive souffrance lui foya les épaules. Elle commençait à brûler vive, telle une sorcière plantée au sommet d'un bûcher. La cagoule de latex se liquéfiait sur son visage, libérant ses cheveux, dont les mèches s'enflammaient dans un crépitement de laine jeté au feu. « Encore 3 minutes, se répéta-t-elle. 3 minutes à ce rythme, et je toucherai la porte. » Les nano-éléments optèrent cette fois pour la stratégie du bouclier corné, le chéloderme. Modifiant l'épiderme de la jeune femme, ils le couvrirent d'écailles blanches qui réfléchissaient la chaleur au lieu de l'absorber. Sans qu'elle en eût conscience, Yumiko se changea en une créature reptilienne d'une étrange beauté. Elle avait cessé de se consumer. Les écailles réfractaires l'enveloppaient, telle une carapace d'amiante. Hélas, ce dernier prodige avait épuisé l'énergie des nanoconstructeurs. Beaucoup d'entre eux étaient en train de mourir. Dès que leur nombre passerait en dessous du seuil critique, les miracles assurant la survie de la tueuse cesseraient l'un après l'autre. Et elle redeviendrait une simple humaine, livrée au feu de l'enfer. Le brasier la réduirait en cendres en moins d'une minute. C'est avec un réel soulagement que Yumiko heurta enfin la porte blindée. Tirant sa main de dessous son aisselle, elle tâtonna pour la placer sur le pad d'analyse. L'aiguille à prélèvement jaillit de son logement et lui transperça la peau pour aller se ficher dans la capsule de sang synthétique greffée dans son petit doigt. Il fallait encore attendre les résultats de l'analyse. Sur la tête et les épaules de la jeune femme, les écailles s'amincissaient déjà, la brûlure devenait plus douloureuse. « Identification correcte !» clama une voix électronique. « Accès autorisé !» À la seconde même, les bouches à chaleur s'éteignirent et le tunnel fut ventilé. La température chuta de façon vertigineuse, mais Yumiko n'y prêta pas attention. Le battant de la chambre forte pivotait sur ses gonds. La tueuse ouvrit les yeux et enjamba le seuil. Elle traversa le sas d'un pas vif, franchit une seconde porte. De l'autre côté s'étendaient les appartements souterrains de la cible. Elle distingua un loft immense, encombré d'objets d'art, de tableaux de maîtres volés au plus grand musée de la planète. Un certain désordre régnait. Une collection de tachis et de katena, d'une valeur de 3 millions de dollars, voisinait une pile de mangas écornés à 90 cents. L'un des murs de la salle avait été transformé en écran géant. Un très gros homme affaissé dans un fauteuil le fixait, la main plongée dans un seau de pop-corn. Le son poussé au maximum atteignait les limites du supportable. Yumiko jeta un bref coup d'œil au spectacle. C'était la transmission en direct des exhibitions auxquelles elle avait elle-même participé avant de descendre dans le tunnel. Elle enregistra l'image de danseuse peu vêtue, un numéro de contorsionniste s'amusant à prendre des postures ambiguës. Elle tendit la main vers l'un des sabres de collection. C'était la première fois qu'elle avait l'occasion de poser les doigts sur une arme d'une telle beauté. La lame huilée, talquée,
glissa sans bruit hors du fourreau en bois de Mongolia. Averti par un obscur instinct, l'homme se retourna. La graisse de l'immobilité lui avait modelé un visage de Sumatori. Il demeura interdit, frappé de stupeur par l'image de cette femme serpent couverte d'écailles blanches qui se dressait au milieu du salon, telle une démone surgie des légendes de l'ancien Japon. Il n'eut pas le temps d'avoir peur. La lame siffla, lui décollant la tête au ras des épaules, réalisant un hachenmaki d'une perfection absolue. Le jet de sang sous pression jaillit verticalement à 2 mètres de haut. Yumiko empoigna la tête par les cheveux et battit en retraite. Il lui fallait maintenant sortir du labyrinthe et quitter le château. Arrivée devant la porte blindée, elle n'eut qu'à faire couler le sang du mort sur le pad pour tromper l'analyseur, puis se rua dans le couloir. Les écailles étaient en train de disparaître et elle se sentait fatiguée au bord de la syncope. Elle émergea du tunnel, nue et barbouillée de sang. Elle se mit en quête d'un coffre à vêtements. Elle ne tarda pas à trouver ce qu'elle cherchait et se déguisa du mieux qu'elle put en servante féodale. Elle enveloppa la tête tranchée dans un sac en plastique qu'elle jeta au fond d'un panier d'osier et sortit du bâtiment principal pour rejoindre ses comparses qui l'attendaient devant la fourgonnette. Dès qu'elle fut assise à l'intérieur du véhicule, les femmes se précipitèrent pour la nettoyer car elle avait du sang sur les mains et le visage. Le chef des comédiens se glissa au volant et démarra. Aucune alerte n'avait été donnée. Pour l'ordinateur de surveillance, le maître du château avait déverrouillé la porte de l'abri. Le maître et personne d'autre. L'analyse ADN en témoignait. Or, le seigneur des lieux était libre d'aller et venir à sa guise. Il n'y avait donc aucune raison de déclencher le branle-bas de combat. Les sentinelles les laissèrent passer après avoir chaudement félicité les sabreurs dont ils avaient suivi la démonstration sur le téléviseur du poste de garde. Leur habileté les avait réellement éberlués et ils s'inclinèrent à plusieurs reprises devant les artistes sans chercher à fouiller la camionnette. Comme à l'aller, aucune parole ne fut échangée au cours du trajet. Arrivée au bas de la colline, Yumiko quitta le fourgon pour grimper dans les véhicules qui allaient la ramener à la station thermale. Elle s'installa sur la banquette arrière, le panier d'osier à ses côtés. Ses paupières se fermaient. Elle devait lutter pour ne pas perdre conscience. Elle réalisa à peine que la voiture s'arrêtait et que des infirmiers se saisissaient d'elle pour l'allonger sur une civière. Elle était en train de mourir pour la 3e fois de la soirée, d'épuisement cette fois. Elle espéra que ses veines contenaient encore assez de nanoparticules pour survivre à ce nouveau décès. Tout de suite après, elle bascula dans le néant. « Comment va-t-elle ?» s'enquit Evgeny en se penchant sur le lit où reposait la jeune femme. « Mal, » grogna Ijasan, « très mal. J'ai bien cru cette fois-ci ne pas pouvoir la ramener. L'épreuve a été trop dure. Je n'ai pas pu récupérer la totalité des nano-éléments injectés. Beaucoup sont morts, certes, mais beaucoup également ont refusé de quitter son organisme. Il s'accroche, sans tête. C'est normal ? Ça peut se produire lorsque les nanomécaniciens ont été trop sollicités. Des bugs apparaissent dans le programme de survie. Les nanosystèmes finissent par surestimer leur importance. Sans doute s'imaginent-ils que sans eux, l'hôte dont ils avaient la charge va mourir. Ils décident alors de rester sur le pied de guerre, baïonnette au canon. « En clair, grogna Evgeny, qu'est-ce que ça signifie ?»« Qu'il existe un risque non négligeable de mutation, soupira le japonais. Les nano-éléments peuvent prendre l'initiative de transformer Yumiko selon des critères aberrants qu'ils auront eux-mêmes définis. Les paramètres enregistrés lors de la traversée du tunnel ont faussé leur appréciation du monde extérieur. Sans doute croient-ils que notre univers est ainsi fait. Eau électrifiée, absence d'air respirable, feu du ciel capable de carboniser un être humain en 10 minutes. À partir de ces informations, les nanomécaniciens sont tout à fait capables d'élaborer une stratégie de survie définitive, c'est-à-dire adapter Yumiko en bouleversant son ADN. Selon cette logique, ils pourraient faire d'elle un cafard géant parce que les insectes sont, à ce jour, les créatures les plus résistantes de l'univers. Evgeny se redressa.
D'une main nerveuse, il ouvrit son étui à cigarette. « On ne peut pas la laisser dans cet état, » décida-t-il. « Elle nous a coûté plusieurs millions de dollars. Il faut la réparer. »
Ijasan haussa les épaules. « Je ne peux rien faire ici, » lâcha-t-il avec lassitude. « Il faut la transporter à la clinique. Là-bas, je dispose du matériel nécessaire. Je la transfuserai en totalité. En la vidant de son sang, je la nettoierai de l'intérieur. Les nanoparticules n'y résisteront pas. »
« Faites donc ça, » conclut le Russe. « Je vais demander qu'on nous envoie un Learjet de toute urgence. Je veux qu'elle soit à Los Angeles le plus vite possible. Vous partez avec elle. » Le vieux japonais fit la grimace. Il détestait l'American Way of Life.